Commence au chapitre 37, à la page 179 de l'Évangile. Bien, c'est une paracha assez longue en péripéties, et c'est là que commence l'histoire qui va mener à l'exil d'Égypte. Et cela commence par un récit concernant la situation de Joseph parmi les frères de Jacob. Et enfin, parmi les fils. Mais peut-être vous expliquerai pourquoi tout à l'heure je me suis trompé. Et pratiquement d'ailleurs, toute la paracha s'occupe centralement de l'histoire de Joseph. Mais vous avez un certain moment, le récit de l'histoire de Joseph est entrecoupé d'un chapitre, qui est le chapitre 38. Oui. C'est le chapitre 38 et qui s'occupe de façon particulière, particularisée, de l'histoire de Judas en français, mais disons Yehuda, l'autre polarité de la descendance de Jacob. Alors, je vais essayer de toucher deux points aujourd'hui, si on a suffisamment de temps. Le premier, c'est d'étudier à travers le Midrash la préférence que Jacob avait pour Joseph. Nous allons voir d'ailleurs directement dans le texte, je dirais même presque la préexcellence de Joseph pour le projet d'identité de Jacob lui-même, un sujet pour lui-même, puisque, en particulier, le fait que Jacob a privilégié Joseph dans son amour paternel, disons, et apparemment la cause immédiate de la rivalité entre les frères, et de tous ces processus dont les récits lui donnent abondamment de détails, qui vont déclencher la descente de la famille de Jacob en Égypte, et en fin de compte, cela préface la première partie de l'exil d'Égypte. C'est donc le premier point. Je vais vous indiquer tout de suite d'ailleurs sur quel verset on s'appuiera, et à travers le Midrash, nous verrons comment comprendre ce cas particulier de Joseph aux yeux de Jacob. C'était jusque-là. Et puis, si nous avons le temps, nous reprendrons alors cette fois dans le texte même de notre paracha un thème que nous avons vu dans deux ou trois cours précédents, lorsque nous avons étudié la question de la suite des engendrements et que nous avons étudié la différence de situation entre le temps des patriarches eux-mêmes, où il était radicalement impossible de prendre femme dans le pays de Canaan, c'est bien avec vous qu'on a étudié cela il y a pas longtemps, et nous reprendrons un peu ce problème, si nous reste du temps, de façon un peu plus explicite, si vous voulez, préparer vos questions, d'ailleurs, je sais qu'il y en a eu à l'époque, de voir les deux stratégies différentes pour la suite des Toladot, pour la poursuite des engendrements entre Joseph d'une part et Yehuda de l'autre. Voilà donc les deux thèmes que je me propose d'aborder. Alors, si vous avez des questions urgentes sur la paracha, dites-le moi, j'essaierai d'intégrer ça dans le temps de venir. Oui.
J'ai de l'avance des fois. Je trouvais que, à la lecture du texte, on a l'impression, si on prend le chapitre Ramène d'un Excel 37, si on prend le patrouille d'après, ויעבו אנשים מדיינים, סוחרים, המשכו, ויעבו את יוסף מנבו, ויגיעו את יוסף הישמעאלים, וכן כזה. Un petit peu plus loin, toujours dans le même chapitre, on a le Pérec, Lamedvav.
Attendez, je prends le Lamedvav, parce que je vois venir la question. Émilie.
והמדרים נחלו אותו אל מצרים לסיפר וסיפרו והמדרים
Non, c'est deux tribus différentes.
Et
vous avez dans la généalogie d'Abraham par Ketura, Médan et Midian.
Et à la vue du premier bateau, on a l'impression en fait que ce sont les Nicanous qui sortent de cette bord et non pas des frères, et qui le vendent aux Ishmaélites. Les frères de Joseph se sont absentés, enfin,
c'est plus qu'une impression, c'est le récit.
Ils se sont absentés, les Midianites sont arrivés, ils en sont pris, ils ont vendu les Ishmaélites, et donc les frères de Joseph n'auraient pas vendu.
Voilà. C'est pourquoi tu t'es mal exprimé en parlant de la vente de Joseph, il fallait dire tout de suite, pas par ses frères.
Non,
j'ai bien entendu. Et effectivement, c'est pas ses frères qui l'ont vendu. Ses frères l'ont fait passer en jugement et l'ont condamné à mort. C'est beaucoup plus grave que ça. Hein. Et Réhouven intervient, puis Yehuda, pour le sauver, et au lieu de le condamner à mort, on va le condamner à un processus qui finalement deviendra l'exil et qui commence par ce qui se passe avec les Ishmaélites, les Médanim et les Médianim. Bon, voilà, donc j'intégrerai ça un peu tout à l'heure. Il y a une autre question.
מה זה שיעקב אוהב את יוסף זה מובן מאליו שאבא יכול לאהוב ילד אחד יותר לא שואלים על זה שאלות
כן, זה הנושא הראשון שאני אתחיל בו. C'est-à-dire, c'est une question sur le premier thème que nous allons étudier. Pourquoi cet amour particulier ou affection particulière de Jacob pour Joseph, puisque c'est ça. Ça va jusque-là ? Bon, alors s'il n'y a pas d'autre thème à intégrer, on peut commencer tout de suite. Voilà, nous allons lire les premiers versets. D'ailleurs, le verset qui nous occupe, c'est le verset 2, pour la première question. Alors, voyez chez Yaakov, Be'eret Megouveyabi, Be'eret Pna, le premier verset. Et Jacob s'est installé dans le pays. On vous traduit habituellement, et la traduction n'est pas fausse, Megouveyabi, où ses pères avaient séjourné, Be'eret Pna, dans le pays de Pna. Bon, la méthode habituelle de l'interrogation du Midrash quant à ce verset, c'est qu'apparemment, il y a là des informations déjà connues. Et quel est donc le chidouche, le renouvellement de sens qui nous est transmis dans cette formule du verset qui apparemment répète les informations déjà connues. Je vais utiliser les Midrashim qui correspondent au sujet qui va se poser à nous, la relation entre Joseph et Jacob. Et vous retiendrez en suspens ce que nous allons apprendre maintenant. D'ailleurs, vous le verrez à travers Rashi, je ne vais pas entrer tout de suite dans Rashi, ça va nous prendre trop de temps, mais je vous le dirai en sikkoum, on va dire de façon concise. Voyez chez Yaakov, Be'eret Megouveyabi. Premièrement, je vous signale que le texte va nommer Jacob, Jacob. Retenez bien cette formule. Or, il a été déjà nommé Israël. Par conséquent, il a été déjà nommé Israël, mais le terme de Jacob est utilisé par la suite dans le verset. Donc, ce n'est pas sans raison. Vous allez me dire si nous avons déjà appris ce thème-là, sinon je commence par cette petite introduction, c'est que la dimension d'identité de Jacob, lorsqu'il est nommé Jacob, c'est en relation avec l'exil. Et la dimension d'identité d'Israël, lorsqu'il est nommé Israël, et de Jacob, lorsqu'il est nommé Israël, c'est en relation avec l'Israël. Parce que le postulat peut être clair, il y a énormément de références dans le texte, c'est-à-dire la règle. Après le fait que Jacob ait été nommé Israël, lorsque le texte de nouveau le nomme Jacob, c'est qu'il y a une perspective de vocation de l'exil. C'est vrai jusque-là ? Alors voyez chez Yaakov, Be'eret Megouveyabi, le pays où ont séjourné ses frères. Mais les nuances que le Midrash met en évidence, un contraste de termes entre Vayeshev s'installer. Et puis, Megourim, ils ont séjourné, mais comme des étrangers. Vous avez guerre dans le mot de go. C'est bien clair ? Alors, il y a un contraste de sens. Ça veut dire que d'une certaine manière, Jacob fait un diagnostic que le temps est venu de mettre fin aux Megourim dans le sens strict, c'est-à-dire qu'ils ont séjourné dans le pays, Abraham, Yitzhak et le père de Jacob, ils ont séjourné dans le pays, mais dans la perspective, enfin dans la Bechina, dans la modalité d'un étranger chez lui. Regardez à quel point ça ressemble un peu à ce que les goyim veulent nous imposer en Eretz Israël, que nous soyons étrangers chez lui. Alors très rapidement sur ce thème, C'est que l'annonce de l'éventualité de l'exil a été déjà donnée à Abraham. La fonction de l'exil, la raison de l'exil, la finalité de l'exil, c'est un problème pour lui-même. On ne pourra que y toucher de temps en temps à travers chaque parachute par telle ou telle facette. Mais vers le sikoum du livre de Bereshit, peut-être du commencement de Chénet, j'étudierai ces problèmes pour lui-même. Laissons en suspens ce que nous avons pu entendre ou apprendre concernant des hypothèses d'explication de l'exil, la plus connue étant que l'exil est une punition. On ne sait pas de quoi. Enfin, c'est une idée très répandue, c'est presque un cliché, que le Guil, c'est la punition de quelque chose. Or, l'étonnement quant à cette hypothèse, c'est que l'annonce de l'éventualité de ce que nous appelons l'exil est donnée à Abraham, a priori de toute histoire d'Israël, qui n'a pas encore commencé. Donc, il faut un peu changer de terme, parce que, bon, nous parlons français, mais vous allez deviner tout de suite pourquoi il faut changer de terme, parce qu'en hébreu, il y a les différentes applications dans le même terme de Galut, mais en français, le terme d'exil est connoté persécution, oppression, c'est clair. Eh bien, c'est que l'éventualité d'une relation à la civilisation extérieure, à l'universel humain contemporain de ce temps, et la relation est privilégiée avec la société qui est la figure de proue de la civilisation de ce temps, et en ce temps-là, c'est l'Égypte. Cette éventualité d'une relation n'est pas forcément vue a priori comme la punition de quelque chose. Elle est en soi une fonction de finalité d'Israël au sein des nations. Mais Israël au sein des nations, ça ne veut pas dire forcément que la métropole d'Israël est détruite et que les Juifs sont en ghetto, pris au piège des ghettos chez les nations. C'est que si, a posteriori, il arrive qu'il y ait une faute d'identité, alors au lieu que cette relation d'extériorité, disons, d'aller vers l'extérieur, se fasse dans l'honneur, dans la gloire, de Chavod et Tifaret, comme nous en avons certains flashs dans l'histoire des patriarches, lorsque Abraham arrive en Égypte, on le reçoit comme Messie Elohim, comme un grand même. Et c'est connu, Abraham arrive, alors le pharaon sait qui est Abraham, le pharaon du temps d'Abraham. Et puis quand Jacob va voyager en Égypte, le pharaon va se rappeler d'Abraham et il va reporter sur Jacob l'honneur d'Abraham. Donc certains épisodes de l'histoire de Joseph, la présence des Hébreux en Égypte, c'est dans la gloire et l'honneur. Joseph, c'est l'empereur, comment on dit le pharaon, empereur, non, on voit. Joseph, c'est le pharaon révèle. Le pharaon de Joseph étant un prête-nom, pratiquement. Mais on s'est habitué finalement à connoter ce terme d'exil dans le sens négatif. C'est bien clair. Bon. Alors, vous allez me rappeler pourquoi j'ai parlé de cela. Oui, la différence entre Yeshev et Medivé à lui. Et le fait qu'il y a cette éventualité que la dispersion. Et c'est très différent quand la métropole existe. Alors il y a des schlichings. Mais si c'est nécessaire, chez les nations. Mais quand les prophètes ont une vision globale de ce problème de la relation d'Israël à l'universel humain, mais inversement, il y a le pèlerinage des nations à Jérusalem. Donc quand la métropole existe, il n'est pas, c'est une première perspective, il n'est pas fatal, il n'est pas inévitable que l'exil soit persécution, oppression. C'est-à-dire que c'est a posteriori de cette relation de dispersion, je dis dispersion parce qu'on emploie le mot de diaspora, enfin cette relation de Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh pour l'humanité se passe dans la dimension d'exil. Ça c'est a posteriori. A priori, la forme même de ce qui est indiqué à Abraham indique, montre que si Israël est Israël, il a une fonction de relation avec l'humanité entière. S'il y a faute, ça devient exil dans le sens négatif. C'est-à-dire, dans tous les cas, cette fonction sera remplie, mais dans les pires conditions, dans l'exil. Je reprendrai peut-être ce point de l'analyse, parce que c'est un sujet très humain. C'est-à-dire, même de façon clandestine, souterraine, le terme de clandestinité me plaît dans cette analyse, parce que ça rappelle la résistance dans la clandestinité. Même de façon non reconnue par l'universel humain, dans un climat de jalousie, ingratitude totale, même de façon défigurée, même de façon caricaturée, le peuple juif, même dans l'exil, joue quand même le rôle qu'il devrait jouer comme peuple de prêtre de l'humanité, mais de façon tortueuse, de façon masquée de façon caricaturée. C'est un thème pour lui-même qui est très important. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce thème-là? Vous comprenez de quoi je parle? Donc, alors, je referme la parenthèse. Et on apprend d'autre part que, étant donné le risque de cette éventualité que l'exil soit effectivement l'exil oppression, les patriarches, les avôtres, ont pris sur eux d'économiser le temps d'exil éventuel de leur descendance. Et c'est pourquoi ils ont pris sur eux le fait de vivre comme étrangers séjournant dans la terre qui leur a été donnée par promesse. Qui vient donnée par promesse, parce que l'expression de terre promise n'est pas traditionnelle hébraïque. Ça, c'est une expression antisémite. C'est une terre que vous avez en promesse. Elle ne vous sera jamais donnée. C'est promis, l'année prochaine. C'est clair. En tout cas, n'avez pas ça en hébreu. Même si on lit en hébreu « Aéret amouftahat », ça veut dire la terre assurée, que c'est assuré. En réalité, c'est « Aéret achernatat », la terre que je vous ai donnée. Et donc, nous avons tout ce temps des Avot, où les Avot vont prendre sur eux d'être guérim là où ils devraient être, Toshavim. Okay? Voilà. Première raison que je cite pour notre analyse, c'est pour économiser le risque, et je n'ai pas besoin d'énumérer les risques de permission, de toute manière, que représente l'histoire de l'exil. Il y a un Midrash en particulier, qui dit que Dieu a proposé à Abraham, Isaac et Jacob de choisir pour leur descendance l'enfer ou l'exil, Gehinnom ou Galout. Le Midrash dit avec beaucoup d'humour qu'ils ont réfléchi et ils ont décidé de préférer l'exil. Ils ont réfléchi, comme s'il y avait une différence. C'est vraiment ce que c'est que la situation de l'exilé. Alors on sait que c'est ça l'enfer. Alors c'est ce qu'il avait à choisir. Enfin, quand même, il semble qu'il y ait une différence. Et l'explication est que si Israël, la descendance des patriarches, a un rôle à jouer au sein de l'humanité, alors s'il ne joue pas ce rôle, l'humanité va risquer de tomber dans l'enfer et il faudra aller dans l'enfer pour eux. Voilà. Alors ils ont préféré quand même l'exil. J'ai compris un peu le. En particulier, je vous signale que dans le verset qui annonce à Abraham cette éventualité d'extraterritorialité de relation à l'universel, ça s'appelle finalement la diaspora, l'exil, ça a duré 400 ans. Vous vous rappelez du verset, Abraham et Otchan. Et en fin de compte, la sortie d'Égypte a eu lieu bien avant le terme de ces 400 ans, si nous comptons le commencement des 400 ans à la descente de Jacob et de ses enfants pour rejoindre Joseph, quitter complètement le pays de Canaan et s'installer en Égypte avec Joseph. Il n'y a que de 210 ans. Il y a donc une période de temps de 190 ans qu'il faut expliquer. Alors elle s'explique de cette manière, étant donné que deux causes de risque de perte du peuple d'Israël en Égypte, en exil d'Égypte, ont joué de façon accélérée. Il y a toujours une cause intérieure et une cause extérieure. La cause extérieure, c'est l'accélération de la persécution qui risquait la destruction physique d'Israël en Égypte. Et parallèlement, la cause intérieure, c'était l'accélération de l'assimilation. Et d'ailleurs, il y a un lien entre les deux, quand il y a assimilation et la persécution. Vous comprenez ce thème-là. Alors, il a fallu intervenir de façon anticipée. Et une des raisons des obstacles auxquels Moïse s'est heurté lorsqu'il a pris l'initiative de mettre fin à l'exil d'Égypte, c'était qu'il manquait 190 ans. Et alors, tant les Hébreux que les Égyptiens étaient en droit de dire, mais notre tradition nous dit que c'est 400 ans, le temps n'est pas venu. J'entendais les rabbins contemporains, hein, chez Alléluia, vous voyez pas ce que je veux dire. Et alors, c'est Moïse qui, comme nous le verrons dans le début du livre de Chénot, qui prend l'initiative de mettre fin. Et le Midrash explique cela abondamment. L'état de saturation de l'assimilation et de la persécution était tel que le peuple d'Israël risquait de disparaître, purement et simplement. Il a fallu donc anticiper la fin. J'ouvre une petite parenthèse, nous avons là un modèle que je vous ai peut-être signalé dans l'exil de Jacob chez Laban, qui est le modèle des modèles dans le texte précédent, un modèle des trois grands moments d'un temps d'exil. Au premier moment, on a Israël en exil, a encore conscience qu'il est Israël en exil, et puis très rapidement, ça se sublime, ça devient mystique, mythique, et puis, c'est différent, mystique et mythique, mais enfin les deux à la fois, Et alors on s'installe dans l'exil. Le troisième moment, on commence à s'assimiler, la persécution arrive. Il n'y a pas d'exception, ça s'est toujours passé comme ça. Je reprends la structure. Premier moment, on est en voyage. Deuxième moment, on est citoyen du pays. Troisième moment, on s'assimile et on est persécuté. Vous n'avez aucune exception jusqu'à l'exil présent duquel on est en train de sortir. Ça s'est passé comme ça, à tous les niveaux. Donc c'est ça. Alors je referme cette parenthèse. Et la réponse que le Midrash donne à le fondement que le Midrash donne à cette explication, c'est qu'étant donné que l'annonce de cette éventualité de la relation à l'universel extérieur ambiant qui risque de devenir exil, pour les causes qui nous sont analysées très en détail dans le modèle de la persécution en Égypte, qui a provoqué la sortie d'Égypte, anticipée, et étant donné que cette annonce concernait la postérité d'Abraham, le verset dit qui yé zaracha, que ta postérité sera étrangère, beret lohaem, dans un pays qui ne leur appartient pas. Le verset ne dit pas qu'il s'agira de l'Égypte, mais finalement il s'avérera que c'est en Égypte que ça se passe. Parce que c'est l'Égypte qui est la figure de proue de la civilisation de ce temps-là. Quoique dès les premiers récits des patriarches, nous avons déjà un certain nombre d'indications jusqu'à lui dire que ça se passera en Égypte. Puisque les patriarches ont tendance à faire des voyages en Égypte, des voyages, disons, préfiguratifs. Ils avaient quitté la civilisation d'Ocasdine, disqualifiée par son niveau moral, et c'est pourquoi la famille d'Abraham avait quitté cette civilisation, et donc la civilisation de ce temps, c'est, puisque c'est plus Ocasdine, ce sera donc l'Égypte. Et donc l'annonce concerne le Zera, la postérité d'Abraham. Or, la postérité d'Abraham, ça commence à la naissance d'Isaac. Il pourrait y avoir une objection d'analyse. Ishmaël était né entre-temps. Est-ce que Ishmaël ne fait pas partie de la postérité d'Abraham? Dans ce problème, non. Le verset dit clairement qu'il Beitzrak Ikare Lecha Zara. C'est en Isaac que sera nommée ta postérité. C'est bien clair, parce que vous voulez la référence de ce verset, je peux vous la donner, mais vous la trouverez dans le texte précédent. J'ouvre encore une parenthèse dans la parenthèse. Il est important de savoir qu'Ishmaël n'est pas concerné par la dimension de l'exil. Ça, je vous l'avais dit souvent, je le répète parce que vous ne l'avez pas entendu, ça se relie à ce sujet, parce que la promesse de l'héritage de la terre est toujours reliée à l'éventualité de l'exil. Retenez bien cela, que j'ai dit l'éventualité. Et si l'exil avait commencé avec Abraham, alors Ishmaël aurait été concerné. Si l'exil avait commencé avec Isaac, Ésaü aurait été concerné. L'exil commence à Jacob, parce que Jacob seul est concerné par la promesse de la terre. Mais là, un thème très important. Qui a le droit de revendiquer Eretz Israël? C'est celui qui revient d'exil. Ça veut dire qu'il a pris sur lui, dans sa destinée historique, l'éventualité de la situation d'exil. Or, nous savons qu'Ishmaël a voyagé partout, mais partout en conquérant. Nous savons qu'Esaü, Rome, a voyagé partout, mais partout en colonisateur. La seule descendance d'Abraham qui a connu l'histoire de la situation d'exil, c'est Jacob. Bon, je referme cette parenthèse, c'est suffisamment clair. Et donc, effectivement, depuis la naissance d'Isaac jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. Parce que depuis la naissance d'Isaac jusqu'à la descente de Jacob en Égypte, il y a 190 ans, plus les 210 ans de temps vécu en Égypte jusqu'à Moïse, ça fait bien. Alors, voilà donc le premier thème. Ce qui renforce d'autant plus le contraste de termes. Vayeshé, Yaakov, Beeret, Megure, Aviv. Et Jacob s'est installé dans le pays des pérégrinations de ses pères, mais ça veut dire dans le pays où ses pères se sont considérés comme en exil pour prendre sur eux, éponger, je ne sais pas comment on dit en français, une partie au moins de cet exil. À la rigueur, ils pouvaient être sûrs d'eux-mêmes de tenir le coup, enfin, je ne sais plus parler français, mais de résister. Eux, les patriarches, les Hébreux, fondateurs de l'identité hébraïque, auraient pu s'engager pour eux-mêmes à résister dans l'exil, mais ils ne savaient pas si la descendance en avait à force Ça dépend de la mère. Ça va jusque-là. Et alors, ça signifie que Jacob a fait un diagnostic que l'éventualité de l'exil est achevée, qu'il a pris sur lui cette prophétie donnée à Abraham, que sa descendance aura à connaître l'exil, mais il l'a connu lui. Oui, Jacob, dans son histoire, il revient d'exil de chez là-bas. Il a pu penser, et là je dis très clairement, c'est son diagnostic, que c'est lui qui avait accompli cela. Dans ses 20 années d'esclavage chez là-bas, il a réalisé l'annonce de l'éventualité de l'exil, et que c'est fini, et qu'on peut revenir s'installer. Vous voyez, chez Yaakov, Beret, Megouvé, jusque-là, c'est le premier drache. C'est suffisamment clair. Nous allons voir que il va être bousculé. Jacob va être bousculé, dit Rashi, par le rogues de Yosef, par l'intrusion de l'impétuosité de l'identité de Joseph qui commence à tout de suite. Vous allez voir l'enchaînement des versets. Le Midrash dit, cité par Rashi, Bikesh Yaakov Avinu, la chevette de Shalva. Jacob a recherché à s'installer, à résider. Il a s'installer de Shalva en tranquillité. Joseph arrive, l'histoire de Joseph arrive, et le bouscule, et l'exil d'Égypte va commencer là. C'est la préhistoire de l'exil d'Égypte, mais en fait, c'est déjà commençant l'histoire de l'Égypte. Qu'est-ce que tu veux dire, Roger?
C'est après 4 ans. C'est 4 ans que déjà vous avez
Attends, répète ta question plus fort, j'ai pas entendu. Oui. Est-ce que là, c'est toi qui dis bon? Oui, oui. Effectivement. C'est pas difficile à comprendre. Un mérite à un certain niveau peut récapituler une éventualité qui, les choses étant laissées à elles-mêmes, prendrait plus de temps. Je ne sais pas quelle image vous employez, mais vous vous rappelez de la phrase que j'ai citée mardi soir, « Akadosh Baruch Hu gozer, un tzadik mevaker ». C'est-à-dire le mérite du tzadik fait que ces 400 ans peuvent se résorber en 20 ans de l'exil de Jacob, c'est pas n'importe quel exil, Jacob chez là-bas. C'est plus clair. Alors, en fait, pour la sortie d'Égypte elle-même, pour ces 400 ans, c'est-à-dire on va commencer, on va situer le commencement de ces 400 ans à la naissance d'Isaac. Vous rappelez d'ailleurs que la phrase que dit la Haggadah de Pessah, chez Akadosh Baruch Hu, Chishev et Aketz, que Dieu a compté la fin en fixant le commencement. Les 400 ans, la fin arrive 210 ans après la naissance de Jacob. J'ajouterai peut-être un principe à ça, que la fin de l'exil, nous la méritons grâce à Isaac, qui n'a jamais quitté avec Israël. On peut se réclamer d'Isaac, alors on a le droit à revenir. Si on ne se réclamait que d'Abraham ou de Jacob, nous serions des Hébreux de l'exil. Abraham est né dans l'exil, et puis Jacob, qui est bien en Eretz Israël, est mort dans l'exil. Il n'y a qu'Isaac qui n'a pas quitté avec Israël. C'est-à-dire que le mérite de la Géoula est reliée au mérite d'Israël. C'est vrai jusque-là. Et c'est pourquoi cette phrase d'Agada se branche, d'ailleurs, s'enracine sur le mirage que je vous ai cité. C'est par le mérite d'Israël que le quête de la Géoula arrive. C'est par le mérite d'Israël qu'il y a une fin à l'exil. On étudiera ça, je le signale vraiment très très rapidement, on étudiera ça au moment de la paracha de Vaïchi, la dernière paracha du livre de Bereshit. Donc à la fin de sa vie, Jacob en Égypte a rassemblé ses enfants pour leur dévoiler la fin. Vous verrez le premier verset du chapitre 49. Et la prophétie le quitte, il ne peut pas leur révéler la fin, et il se donne à les bénir. Profondément, Al-Pierre Sod, les bénir, ça veut dire les définir, et ça veut dire donc leur révéler leur histoire jusqu'à la fin. Mais il faut chercher profond, parce que c'est caché. Et un des midrashim me raconte ça comme ça, le midrash du Tzachon Rayashan, qui dit que lorsque Jacob s'est aperçu que la prophétie de la fin de l'exil le quitte, il a eu une crainte, est-ce que ses enfants ne sont pas concernés par cela? Est-ce que ça les concerne? Alors il leur demande, Shema Yesh Bachem Het, peut-être qu'il y a en vous une faute. il y a peut-être il y a une faute qui empêche qu'il y ait la fin de l'Église. Et alors, ils ont répondu, tu vas prendre mon nom, le nom des tribus des enfants de Jacob, et épelle-les, tu verras qu'il n'y a pas la lettre « het » dans aucun des noms des enfants de Jacob. On veut vérifier, le Midrash a raison, il n'y a pas la lettre « het ». Bon, la lettre « het » s'écrit « het tab ». Le mot « het » faute s'écrit « het tet alef ». C'est comme ça, hein? Bon, alors vous comprenez le raisonnement du Midrash. Donner un nom à quelqu'un, c'est désigner son identité. Au niveau de la nomination des personnages de la Bible, il n'y a pas de nomination conventionnelle. Donc, Abraham, c'est une manière d'être homme et un projet d'identité nommé de ce nom-là, ainsi que tous les noms des héros de la Bible. C'est vrai. Et par conséquent, le fait qu'il n'y ait pas la lettre « het » dans les noms des enfants d'Israël, des tribus d'Israël, ça veut dire que Israël est innocent. Je le dirais d'une autre manière. C'est vrai qu'il y a une règle dans le Talmud qui est très importante. C'est que quelqu'un qui est condamné à l'unanimité est considéré comme innocent. Ce n'est pas possible de condamner quelqu'un à l'unanimité. Or, c'est le cas d'Israël. Il est condamné à l'unanimité, donc il est innocent. Vous comprenez ce que je dis ? C'est-à-dire qu'il y a une accumulation d'accusations qui a traversé l'histoire. Et je crois qu'il n'y a pas d'autre manière d'être homme qui a été tellement interpellé, accusé, condamné à l'unanimité. De façon tellement hypertrophiée que ça prouve que l'humanité manque d'humour. Et alors, pour rattacher ça à cette règle, Naki. Peut-être j'en analyserai un peu plus. Quand un tribunal de vérité, fait unanimité pour condamner quelqu'un, ça veut dire que le jugement dépasse la justice humaine. Parce qu'il n'est pas possible que dans un tribunal de vérité, il n'y ait pas une voix pour plaider pour. Même si la majorité décidera qu'il est coupable, mais il n'y a pas une voix pour mettre en évidence le côté du bien, ce que c'est un cas qui dépasse la justice humaine. C'est clair ? Alors, simplement se référer à cela, c'est que Israël est condamné à l'unanimité, donc il est innocent. C'est un peu ce que dit le Midrash. Les enfants de Jacob ont dit à leur père, eh bien, scrute notre identité, épelle nos noms, tu verras qu'il n'y a pas la lettre. Vous suivez ? Alors le Midrash continue. En disant, pendant qu'il était occupé à chercher la lettre qu'il n'a pas trouvée, il a fait une découverte. Il n'y a pas non plus la lettre Kouf et la lettre Tzadi, qui ensemble font Ket. Il n'y a pas de trait, mais il n'y a pas de Ket. C'est clair ? Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Qu'il n'a pas trouvé Ket chez ses enfants. Ça veut dire d'abord une chose péjorative. Ça veut dire qu'il y a là un jugement, qu'on attend la fin, mais en réalité on ne l'attend pas. L'année prochaine, on n'a pas trouvé de fin. C'est clair ? Mais ça c'est péjoratif, mais c'est réel. Il y a un doute sur la sincérité de l'espérance messianique de ce peuple qui dit qu'il attend, mais il n'attend pas une fin, puisqu'elle est constamment repoussée. Bon, on peut le dire de mille manières, mais ça va. Il y a un autre niveau qui, lui, est au contraire positif. C'est que cette dimension qui va se réaliser dans l'histoire, dans la dimension de l'exil. Cette dimension de l'identité de Jacob, en tant que fils de Jacob, il n'y a pas de fin. C'est difficile d'expliquer en français, c'est une force, un élan, un courant de vie qui n'implique pas de fin en lui-même. Alors là, je reprends la même analyse négative, mais dans le sens positif. C'est-à-dire une insatisfaction permanente. Chaque fois qu'on se dirait la halte peut être faite, non, c'est pas encore ça. Alors l'année prochaine. C'est ambivalent, c'est ambigu. Une chose réagit sur l'autre. Mais je reviens à cela. En tant que fils de Jacob, il n'y a pas de fin. Jacob n'a pas de fin. Alors il y a un thème très important. C'est que le Midrash a établi que dans le verset qui décrit la mort de Jacob, le mot de « il mourut » n'est pas employé. « Vayamot », c'est pas employé. Alors que c'est employé pour les autres patriarches. Il y a d'autres thèmes. Il va, il expira, mais il n'y a pas « il mourut ». Alors le Midrash dit « Yaakov avinu lo met ». Jacob, notre père, n'est pas mort. Un des rabbins du Midrash a objecté, mais il y a écrit qu'on l'a embaumé. Il dit « Non, mais moi je lis un verset ». Et dans le verset, il n'y a pas écrit « Vayamot ». Alors on peut expliquer à différents niveaux. Ça veut dire « tant que nous sommes vivants, Jacob n'est pas mort ». Bon, c'est un peu allégorique, c'est ce que je dis là, et j'aime pas du tout les allégoriques, parce que c'est beaucoup plus réel que ça. C'est encore avec nous. Alors, vous chantez un chant comme ça.
Non.
Et alors, ça veut dire il est kulo chai. Il est vivant. Il n'y a pas de fin à sa vie. Retenez ce que j'ai dit au début. Jacob, j'ai parlé d'Israël. Jacob, c'est la dimension de l'exil. C'est ça que Jacob a vu, que dans cette dimension d'exil, de force de résistance dans l'exil, il n'y a pas de fin. Okay. Je crois qu'on peut ajouter cela, bien loin après le Midrash, dans le temps, a posteriori de tant de milliers d'années d'expérience de notre histoire, et tout se passe comme si ce Midrash a raison. C'est du mot, tout se passe comme s'il a raison. Baruch, il a raison. Les Juifs n'ont jamais mis fin à leur exil. Ça leur a été toujours imposé. Je pense que c'est clair. De notre temps, on a été privilégié. Il y a un personnage qui s'appelle Herzl qui a écrit un livre, ça a suffi. Voilà. Les Zohar, je vous cite là une explication du Shlach sur les Zohar, nous ramène à Yitzhak. Vous avez bien le mot de Yitzhak. Il est formé de quatre lettres. Deux de ces quatre lettres, c'est le mot de Hay, Chetut, et les deux autres lettres, c'est le mot de Ket. C'est-à-dire, il y a en Yitzhak ces deux forces, qui sont deux forces contradictoires. L'une, c'est la vie sans fin, et l'autre, c'est la fin sans vie. Ket et Hay s'entremêlent et ça fait Yitzhak. C'est-à-dire, c'est une des lectures du nom de son identité. Il ne devait pas naître, il est né. Il devait mourir, il n'est pas mort. Histoire du train. C'est-à-dire le Ket et le Chai sont constamment, complètement entremêlés dans l'identité d'Yitzhak. Il a donné tout Chai à Jacob et tout Ket à Esaü. Esaü, il est Kulo Ket. Et Jacob, il est Kulo Chai. Et c'est la raison pour laquelle le Midrash dit « Jacob a vu l'homme ». Si on essaie de comparer la messianité de Jacob, donc d'Israël, c'est Kulo Chai, si on compare la messianité selon Esaü, c'est-à-dire la chrétienté, c'est Kulo Ket. C'est déjà arrivé, donc ça n'arrivera pas. Et c'est toujours en arrière, c'est toujours au passé, dans l'eau, à la quête, dans la haine, à la quête. Et je pense que c'est très clair. Ça veut dire que Isaac a délégué une de ses forces à Jacob. Et par conséquent, tant que Jacob n'est que Jacob, il n'y a pas de fin, c'est clair, à la fonction de Jacob. Et retenons, la fonction de Jacob, par rapport au nom Israël, c'est la fonction de l'exil. C'est clair, justement. Alors c'est clair énormément de choses, d'ailleurs. Mais en tant que fils d'Isaac, on est relié à la certitude de la fin de l'exil. C'est clair? Et c'est pourquoi le Midrash que je vous ai cité sur la Gada de Pessah impute au mérite d'Isaac qui a eu la Géoula d'Égypte. Vous vous rappelez de cela? Je rappelle simplement l'implication qu'il faut mettre en évidence par rapport à notre sujet. Le mérite particulier d'Isaac dans ce sujet-là, il en a plusieurs preuves d'ailleurs, il est exceptionnel à les avoir, c'est qu'il est celui des patriarches qui n'a jamais quitté l'Égypte. Dans l'identité d'Israël, il n'y a pas d'ambiguïté pour la diaspora israélienne. Cette ambiguïté-là, elle n'existe pas pour Isaac. Alors, lorsqu'arrive le temps de la nécessité de mettre fin à l'exil, c'est le mérite d'Isaac qui joue. En clair, si vous voulez décrypter ça, si c'est nécessaire, ça veut dire les droits qu'ont les Juifs de l'exil de revenir sur leur terre, c'est de considérer que c'est la leur, tout simplement. Alors, ça, c'est Isaac. C'est ça. Bon, et voilà donc le Midrash classique habituel sur ce verset, et je choisis un parmi beaucoup d'autres, qui met en évidence ce fait, c'est que Jacob a donc diagnostiqué, le diagnostic de Jacob était que le temps d'exil prévu pouvait être considéré comme achevé par lui. Alors on s'installe. Et Rachid d'ailleurs, mais je ne vais pas rentrer dans le détail encore, on a trop de textes à voir ce soir, et les commentateurs de Rashi indiquent cela de la manière suivante. Ça veut dire que les patriarches, lorsqu'ils étaient en exil, faisaient des guérimes, on traduit ça converti en français, il faut dire des naturalisés à l'identité israélienne. On a parlé de ça. Et tant Abraham que Jacob, c'est clair, il y a des midrashs, des versets très précis qui montrent que Jacob s'occupait de, en dehors de ses enfants, disons, convertis des hommes. C'est Abraham de la même manière, Sarah les femmes, etc. Et puis la question se pose dans le midrash, et Isaac, où est l'allusion à cela que Isaac faisait des guérines, il donne ses versets. Eret Megure Aviv, dans le pays où Yitzhak faisait des convertis. Megayere Aviv, dit le midrash. Alors ça veut dire que d'une certaine manière, on va retrouver le lien avec ce thème. Jacob met fin à l'histoire, le temps messianique va commencer, il n'y a plus de guérison. Alors que nous allons voir que Joseph va reprendre ce rêve de continuer à faire des guérisons. Vous voyez comment ça se logique. Alors, verset suivant, c'est là qu'on aborde notre premier thème. Et les toldot Jacob, et voici, on serait tenté ici de traduire les engendrements de Jacob, mais on est obligé, étant donné le contexte, la suite du texte, de traduire le nom de Toldot par voici l'histoire, les Mehoraot, les événements de l'histoire de Jacob. Et ça commence par Joseph, âgé de 17 ans, Yosef, Ben Sheva, Esrechana, Ayarore, Techav, Atsud, faisait paître le troupeau avec ses frères, et c'est là que l'histoire va se déclencher, commence à arriver et s'amène à l'exil d'Égypte. Donc une énorme parenthèse qui va s'installer entre le Vayeshev, il a voulu s'installer, et puis finalement il va en exil mais il reviendra, la sortie d'Égypte. Une immense parenthèse qui commence avec l'histoire de Joseph. Alors, on va isoler l'expression Ele Toldot Yaakov Yosef. On est aidé d'ailleurs par les Kharamim de la Massora. Alors, je vais vous les lire autrement et je vous lirai plus attentivement deux midrashim à ces deux niveaux. Lorsque Toldot, ça signifie les engendrements, et lorsque Toldot, ça signifie l'histoire. Et je m'appuierai sur ces deux midrashim que je vais commencer à lire presque immédiatement pour poser ce problème. Pourquoi Jacob préfère Joseph. Vous pouvez juste là. Vous avez déjà énormément d'éléments d'étude du problème. Alors, reprenez le début du verset 2. On va relire d'abord le pshat. Au verset 2, Elé, voici, Toldot Yaakov. On pourrait traduire les engendrements de Jacob, mais comme on ne va pas nous énumérer du tout ses enfants, on va nous parler de l'histoire de Joseph, il faut donc traduire par les Mehoraot, les événements de l'histoire de Jacob. Et puis, une autre phrase commence. Yosef ben Shevar Esrechana, Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Voilà. Bon. On va laisser cette lecture du chat, on va monter un peu plus haut dans le drache. J'isole donc les quatre premiers mots, et les Toldot Yaakov Yosef. Voici les engendrements de Jacob, Joseph, et les autres, évacués. Ça va être d'ailleurs une des principales ta'anot, comment on dit en français ta'anot, ta'ana, reproche, c'est plus que reproche.
Accusation.
Accusation, c'est pas accusation. C'est contestation. Un des principaux motifs de la contestation des frères de Joseph contre Joseph, c'est relié déjà à la préférence de Jacob pour Joseph. Comme si les engendrements sélectifs continueraient. Et que après Abraham, ça a été Isaac, après Isaac, ça a été Jacob, et qu'après Jacob, ça serait Joseph, et les autres rejetés dans l'approximation. C'est-à-dire, nous verrons que dans le procès que les frères vont faire à Joseph, il y a ce premier élément qui est très important, et c'est pourquoi ils vont le condamner à mort, d'être traître à l'unité d'Israël. On ne connaît pas la suite de l'histoire, on n'est que dans ce commandement-là, dans ces commencements-là, pardon, en fin de compte, il s'avérera que Joseph travaillait pour l'unité d'Israël, mais ça se révèle qu'à la fin de sa vie. C'est clair, pendant tout le temps où Joseph était en Égypte, tout se passe comme s'il avait pris fait et cause pour le pharaon contre Israël. C'est vrai jusque-là. Ce n'est qu'en fin de compte que ça se dévoile. Alors je vais isoler cette unité de lecture, et les Toldot Yaakov. L'expression qu'on va apprendre, à toi la vôtre à la lune.